Ils sont de retour cette semaine et c'est avec plaisir que nous accueillons Philippe Nonni et Diego Arrabal pour Un jour, un livre, un auteur avec un invité en studio aujourd'hui. Bonjour à tout le monde.
Bonjour,
Gilles, bonjour Diego Arrabal.
Bonjour Philippe.
Ravi de vous retrouver cette semaine.
Voilà.
Ben voyez, on doit en être à peu près à 400 émissions et on le dit souvent qu'on ne voyage pas assez en terre de poésie. On le répète suffisamment souvent dans l'émission littéraire Un jour, un livre, un auteur. Hein, on répète souvent qu'on garde toujours notre porte ouverte aux poètes. Et bien ça tombe bien, parce qu'aujourd'hui, justement, c'est le cas avec notre invité et eux, qui partageaient déjà cette émission avec nous la semaine passée. Cette semaine, elle nous revient pour L'envol d'un navire aux éditions de la Nouvelle Pléiade. Ce texte, c'est un visa pour des poèmes qui évoquent l'amour, le souvenir, la nostalgie, tous ces sentiments que depuis des siècles, la poésie évoque avec toujours beaucoup, j'aurais presque envie de dire, tellement de justesse. Bonjour Bérangère Lannemarancy.
Bonjour à vous et bonjour aux auditeurs.
Vous nous revenez cette semaine, alors avec des textes poétiques. Hein. Bon, on va quand même dire que la semaine passée, Le Messager du Soleil, donc aux éditions Maya, c'était un conte initiatique qui était aussi très poétique. Donc voilà. Donc on reste en fait hein, dans ce domaine-là et c'est très bien. Moi, je vais vous avouer une chose, c'est que il m'arrive parfois la nuit de me lever quand j'arrive pas à dormir. C'est encore le cas la nuit précédente et je me lève pour rechercher la compagnie des mots. Et souvent, c'est un livre de poésie qui a ma préférence, quand j'arrive pas par moment à me rendormir, il est 3 ou 4 heures du matin. Et quand j'ai lu, en fait, votre ouvrage, il se trouve que je me suis levé dans la nuit, à un moment donné. Puis bon, je reste pas dans la chambre pour pas réveiller ma femme. Je me suis demandé, quand vous avez écrit donc, ce livre, ce recueil de nouvelles, L'envol d'un navire, quand et pourquoi vous avez écrit ces poèmes ? Je me suis même demandé si vous n'avez pas écrit la nuit par une nuit d'insomnie en vous levant et en vous disant qu'il serait écrit pour des personnes qui, la nuit, auraient besoin de retrouver la compagnie des mots.
Oui, ben,
parce que c'est une lumière.
C'est exactement ça, en fait. J'écris, la plupart du temps, j'écris la nuit. Parce que la nuit, il y a le silence et on peut facilement se concentrer. Et intérioriser les choses. Enfin, voilà, je me retrouve dans un cocon et c'est là que les mots viennent très facilement. L'inspiration vient parce que je me centre, en fait. Je me centre et je fais appel à toutes les émotions du cœur qui vont sortir à ce moment-là. La nuit est vraiment propice à cela. J'aime beaucoup écrire des poésies. J'ai toujours écrit de la poésie depuis l'âge de 14 ans. Et avec beaucoup d'émotions, je suis quelqu'un d'hypersensible. Et il fallait que je mette cette hypersensibilité. En fait, il fallait que de cette hypersensibilité, j'en fasse une force. Et c'est l'écriture qui m'a appris qui m'a permis de développer ma sensibilité autrement. Voilà. Et je mets cette sensibilité au service des autres. C'est-à-dire que ces poèmes-là, pour moi, sont des poèmes qui doivent permettre aux personnes de se ressourcer, de mettre un peu le temps entre parenthèses et de trouver un peu de sérénité en eux, même quand ils ont de la souffrance, des difficultés, de la douleur. Voilà. Si j'ai écrit ces poèmes, c'est aussi parce que je rends hommage à mon grand-père. Hein. J'ai eu quelques deuils comme tout le monde, des deuils qui ont frappé ma vie. Et encore, je n'ai pas traversé des deuils plus, enfin, dramatiques. Il y en a certains qui ont des deuils beaucoup plus dramatiques que ça. Mais j'ai perdu mon grand-père, j'ai perdu mon père. Et c'est vrai que ces deuils, en fait, je les transforme. Je les transforme en... je les transforme à travers l'écriture et je rends hommage à tous ceux qui ont disparu aussi.
Alors je me suis posé une question en lisant votre recueil de nouvelles parce que je m'étais toujours dit que le deuil, justement, et je vais lire après un poème en page 7, Lettre à mon papy, que vous évoquiez à l'instant. Je m'étais toujours dit que le deuil, c'était la construction de l'absence de l'autre. Et en fait, quand j'ai lu votre recueil, notamment cette nuit-là, je me suis réveillé, je l'ai lu, je me suis dit, non, là, c'est pas la construction de l'absence de l'autre, c'est la reconstruction de la présence de l'autre. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette affirmation, notamment quand j'ai lu le poème que je vais lire après, Lettre à mon papy?
Oui, oui, tout à fait. En fait, je fais revivre un petit peu les instants du passé. Pour moi, les personnes qui sont parties ne sont jamais parties. Il y a toujours un lien, une connexion qui se fait entre nous. Et c'est ça aussi qui permet d'avancer dans le deuil. C'est ça aussi qui nous permet d'avoir de l'espoir toujours, à chaque jour. C'est tout à fait ça, c'est de la reconstruction en fait. Grâce à cette écriture, je me suis reconstruite. J'ai gravi les échelons de la... Enfin, pas les échelons, mais j'ai gravi les marches, on va dire plutôt, les marches du deuil. Voilà, parce qu'effectivement, le deuil passe par plusieurs... On sait qu'il y a plusieurs étapes. Et c'est grâce à cette écriture que j'ai vraiment changé. Et le deuil n'est plus aussi... Pour moi, n'est plus... Le deuil est une étape, c'est tout. Voilà, c'est un passage. Et la mort est un passage pour moi, c'est tout.
Alors je vais lire, hein, décidément.
Hein,
semaine après semaine, je trouve qu'on arrive à la fin de l'année là, c'est la fatigue. Hein,
je suis en train de remplir le bêtisier.
Non mais j'ai remarqué, oui, j'ai vu que vous appuyez sur un bouton en même temps,
voilà.
Gilles.
Bon, voilà. On a le disque dur plein.
Le disque dur est plein. On est donc toujours dans Un jour, un livre, un auteur avec Bérangère Lannou-Marancy pour L'envol d'un navire aux éditions de la Nouvelle Pléiade, un recueil de nouvelles. Je vais lire justement. Lettre à mon papy. Mon papy, il y a bien longtemps que je ne t'ai plus écrit. Sans doute les gouttes d'encre sur la page blanche pleurent-elles comme autant de taches de sang sur ma peau. Toujours le même trou noir à mes côtés, un trou rempli de vent et de pluie. Te dire je t'aime? Oui, mais comment? Tu m'as préservé de la tristesse. Tu m'as donné le petit je ne sais quoi que personne ne pourra plus jamais me donner. C'est de l'impalpable, de l'innommable. Je t'aime et tu me manques. Que la séparation est longue, je t'ai perdu. Enfant qui égare une nuit son doudou. Mon esprit erre encore dans cette maison. Je t'aime et tu me manques. J'ai perdu les mots. J'ai perdu les paroles qui pansent les sentiments, qui cicatrisent les cœurs. En lisant ce premier poème, je me suis demandé, Bérangère Lannou-Marancy, ce que représentait la poésie pour vous.
La poésie, pour moi, c'est un havre de paix. C'est plein de sensations, de toute façon, voilà, ce sont les sensations qui s'animent, et c'est un bouillonnement, en fait, voilà, c'est le bouillonnement des mots, voilà, c'est le bouillonnement des sentiments à travers cette poésie. C'est aussi la vie, c'est la vie. Alors, quand vous avez lu ce texte, ça fait longtemps que je ne l'avais pas entendu comme ça, et je vous remercie de cette lecture qui est très émouvante. En fait, quand vous les avez lus ce texte, je me suis dit, bien, tu as bien évolué, ma petite, parce que cette séparation, elle est beaucoup moins lourde aujourd'hui, beaucoup moins pesante, on va dire, ouais, parce que c'est grâce aux mots. J'ai pas perdu les mots, en fait. Je les ai retrouvés. Voilà. J'ai pas perdu les paroles, je les ai retrouvées. Et aujourd'hui, je peux le dire, j'ai évolué et j'ai grandi, en fait. C'est le petit papillon qui a grandi et qui a trouvé, enfin, un chemin de sérénité grâce à la poésie.
Est-ce que ce recueil de poésie, par rapport au chemin de vie qui était le vôtre, c'est aussi un message... Un formidable message d'espoir, j'insiste sur le terme formidable, un formidable message d'espoir que vous transmettez à ceux et à celles qui forcément vont avoir des deuils dans leur vie. Ça fait partie du cheminement de vie. Hein. Logiquement, les grands-parents partent avant les parents partent avant les enfants. Ça fait partie du chemin de vie. Ce sont des deuils, hein, et on sait que le deuil, hein, c'est représenté donc, par cinq étapes, avec la dernière étape qui est l'acceptation. Est-ce que c'est un message d'espoir que vous envoyez aux gens en disant, écoutez, à travers les poèmes que j'ai écrits, c'est aussi vous dire qu'au bout, il y a la lumière.
Oui, c'est tout à fait ça. En fait, à travers ces textes-là, je veux montrer aux personnes que rien n'est perdu. Il faut pas sombrer. Bien sûr, ça va être tout à fait normal. Chacun va passer des étapes dans le deuil. Chacun les passe. Et d'une manière ou d'une autre, on passe par la colère, on passe par le déni. Voilà. Mais on arrive toujours. Pour moi, on arrive toujours au bout, c'est-à-dire à l'acceptation. Et on arrive à l'acceptation en ayant un petit peu justement en ayant cette sérénité et en écrivant. J'incite toutes les personnes qui ont perdu des êtres chers à écrire, parce que tout le monde peut écrire sur le deuil, tout le monde.
Et à se retourner après, comme vous le disiez tout à l'heure, là, oui. sur l'être à mon papy, sur le poème donc à votre grand-père, de vous dire, quand vous entendez une autre voix que la vôtre le lire, de vous dire, bah, tiens, finalement, oui, j'ai cheminé.
Oui, complètement. Il y a un grand changement entre ce recueil qui a été publié il y a quelques années et Le Messager du Soleil. Il y a vraiment une grande évolution et je suis plus dans l'acceptation aujourd'hui. Et c'est vrai que quand j'ai des proches qui ont des deuils, des personnes, des amis qui ont des deuils, je vais vers eux en leur proposant des textes, justement, en leur proposant des poèmes personnalisés, peut-être. Voilà, personnaliser des poèmes. J'ai personnalisé déjà des poèmes pour des amis qui ont perdu un papa, une maman. Et pour leur dire...
Écoutez, et comment ils le reçoivent, ça?
Ils sont très contents. Ils sont très contents. Parce qu'en fait, ce sont des personnes qui n'ont pas les mots qu'il faut au départ. Enfin, voilà, ils sont en pleine phase de deuil. Ce sont les premières étapes du deuil et ils ne savent pas. Ils ne peuvent pas écrire. Certaines ne peuvent pas écrire. C'est trop douloureux. Et donc, quand on a pris un peu de recul, on arrive à écrire. Alors, là, vous voyez, il y a quelques années que j'ai écrit ce texte, mais j'étais encore dans le manque de la personne. Et voilà, c'est pour dire aux personnes, voilà, à tout moment, vous pouvez écrire sur vos personnes disparues, parce que d'abord, c'est un hommage, c'est rendre hommage à la personne, c'est la rendre vivante un instant par la pensée, et c'est aussi raviver en fait toutes les sensations et tous les sentiments. Qu'on a partagé avec cet être cher aussi. Donc c'est le faire renaître quelque part à travers les mots. C'est ça aussi.
Je vais lire en page 9, là, Complainte du violon. Alors, c'est un instrument que j'aime beaucoup, le violon, mais j'ai beaucoup aimé effectivement ce texte que vous avez écrit autour du violon et la chute à la fin du texte. Chaque dimanche, le violon recommence ses lancinantes notes du passé. Je suis là, derrière ce portail noir. Le soleil a rendez-vous avec la petite fille brune aux grands yeux marrons. Elle court après une ombre. Le soleil est glacé ce dimanche. La petite fille est toute seule dans la cour. La rue est déserte. La maison vide. Tiens, il reste encore ce banc rouillé. La peinture blanche s'écaille minute après minute. Au bout de l'allée, des étiquettes de carton crèvent sur le sol mouillé. Il fait mi-ombre, mi-soleil, et je frissonne, balayé par un vent d'hiver. Ma main se pose sur le mur de la maison. Le temps n'a rien changé. Sous mes doigts, la pierre me parle du passé. Tiens, le jardinier est parti en laissant ses outils contre un piquet. Je fais le tour. Le tour de quoi, d'ailleurs? Ce problème, je le trouve... Il est magnifique parce qu'on voit bien que le jardinier c'était effectivement votre papy, celui qui organisait les choses. Mmh. Est-ce que, je me suis souvent posé une question et je voulais vous la poser. Est-ce qu'il n'est pas dur d'arriver à communiquer à ceux que l'on aime, c'est-à-dire les enfants et les petits-enfants, d'arriver à communiquer quand on les emmène, par exemple, à l'endroit, à la maison, par exemple, de ses grands-parents, au moment où on parle de la maison, on voit en persistance, avec une forme de persistance rétinienne, les images que l'on a, les odeurs. Par exemple, ça peut être les tomates, les feuilles de tomates qu'on écrasait avec son grand-père entre les doigts. Est-ce que vous pensez que les souvenirs ne sont pas quelque part incommunicables avec celles et ceux que l'on aime qui n'ont pas pu vivre ce qu'on a vécu? Et est-ce que vous pensez que les mots, y compris les poèmes, peuvent arriver malgré tout à transmettre quelque chose de ce bonheur qu'on a vécu?
Et oui, c'est grâce aux mots et à la poésie là, que je peux transmettre et toute personne peut transmettre ses émotions et ses souvenirs-là, parce que ces souvenirs sont personnels. Donc, il est très difficile de comprendre les émotions d'une personne quand elle va voir, par exemple, là, c'était le cas, hein, c'était la maison de mes grands-parents. Et donc, c'est personnel, mais grâce à ces mots, je pense réussir à partager l'émotion que j'ai, à toucher ces pierres, à rentrer dans cette maison qui ne m'appartient plus.
Mais qui vous appartient quelque part quand même.
Et qui m'appartient, mais dans le cœur, voilà, qui est toujours là, dans mon cœur. Et en fait, ce texte, c'est aussi pour montrer aux personnes, mais vous voyez, le temps passe, certes, les personnes ne sont plus là, mais il reste les souvenirs et il reste aussi ces images que vous pouvez, qu'on ne pourra jamais effacer, qu'on ne peut pas effacer. Et donc, ces images-là, vous pouvez les transformer en mots aussi, c'est ça.
Est-ce que vous êtes d'accord avec cette phrase de Jean d'Ormesson qui écrivait, personnellement, je trouve très joliment, « Ce qu'il y a de plus fort que la mort, c'est le souvenir des défunts dans la mémoire des vivants. »
Ah oui, c'est exactement ça que j'essaie de retranscrire. Donc, je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est dans ce souvenir des personnes perdues et des moments perdus que on fait revivre, renaître. Donc il y a comme on qui dirait un peu d'espoir en fait pour chaque personne. Non, tout n'est pas perdu. Il y a rien qui s'efface dans la tête, dans la mémoire, dans le cœur. On garde vraiment les moments précieux, des moments qu'on a partagés avec nos ancêtres, des moments qu'on a partagés avec un grand-père, un père, une mère. Tout ça, ça reste. Personne ne peut nous l'enlever. Personne.
Voilà. Je vais lire justement en page 44 la chanson du blé, qui m'a rappelé, quand je l'ai lu chez mes grands-parents, il y avait un champ de blé à côté, tous les printemps. Et quand le vent passait à l'intérieur, ça fait un bruit très particulier, le blé, que ne fait pas l'orge, mais que fait le blé, tout particulièrement. Et je vais le lire parce que j'ai ressenti exactement la même chose. Cette nuit, j'ai entendu le chant de blé rempli de ton sourire. Il chantait tes saveurs printanières avec le vent. Tes paroles étaient musique et ta chevelure glissait entre les doigts de l'aube. Alors un frisson coulait entre mes reins pour éveiller mon cœur. Je déjeunais de ton parfum, je dévorais tes rires pour oublier les nuits de cauchemar. Je marchais en toi pour absorber ta rosée. Toi, tu appelais le soleil pour couler dans la maison. Les cigales s'accrochaient à ta peau brune pour se perdre dans ta musique. Demain, tu seras moisson et je serai le pain. Il est très beau ce poème, il est très fort, je trouve, et il m'a rappelé ce bruit particulier, alors qui est pareil, hein. Je me rappelle que j'avais amené mes enfants dans la maison de mes grands-parents, j'y voyais, et là il y avait un champ de blé, ça faisait un bruit particulier, et je me suis rendu compte de l'incommunicabilité, effectivement, de la sensation, parce que encore aujourd'hui, je revois, il me regardait avec des yeux bizarres, et je leur aurais lu ce poème, je pense qu'ils auraient beaucoup mieux compris.
parce que les sensations sont rejaillissent de ce texte en fait. Voilà. Quand j'écris, en fait, j'entends, je vois, je sens. Voilà. Toutes mes sensations sont en éveil. Et donc, ma poésie, elle se construit à travers ça. Voilà. Donc,
si je vous dis, Bérangère Lannemarency, par rapport à ce que vous dites « je vois quand j'écris », si je vous dis que vous êtes une cinéaste des mots, vous seriez d'accord avec ce mot, avec ce terme ?
C'est très gentil à vous, mais oui, peut-être, peut-être.
C'est-à-dire qu'au lieu de tourner avec une pellicule,
ah oui.
Vous tournez avec une pellicule faite de mots, donc
oui.
un cinéaste des mots.
Oui, complètement. Oui, 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 tout à fait. En fait, à la lecture des textes, c'est vrai que se dessine une histoire, se dessine un souvenir, se dessine une vie derrière ces mots-là, une vie. Voilà, le texte, il prend vie en fait pour moi. Voilà. Il prend vie. Oui, c'est tout à fait ça. Cinéaste des mots, vous avez bien trouvé.
Bon, j'ai déposé alors un modèle déposé, Gilles. On va appeler l'Institut National de la Propriété.
Voilà, c'est fait.
Industriel, et je déposerai. Ça viendra compenser, vous savez, les bons mots par moment où je me plante, vous savez. Là,
c'est assez rare.
Le petit recueil. Oh, si, c'est fréquent. Je vous vois me regarder avec un petit sourire. Donc, à Diego et à vous. Bon, Bérangère Lannemarency, L'envol du navire, donc aux éditions de la Nouvelle Pléiade. Oui. Un super recueil de nouvelles. Vous allez juste nous dire qui a fait la couverture.
Alors, je suis assez fière, même si c'est enfantin. C'est mon fils, parce que...
Et il a utilisé du...
Non, du vernis à ongles, non, pas du tout.
Ah, d'accord, je pensais que c'était comme la semaine passée. Alors.
Non, non, c'est pas du vernis à ongles. En fait, quand j'ai écrit ce livre, il était tout petit encore. Et donc, j'ai toujours fait participer mon fils à toutes mes aventures, en fait. Je partage beaucoup avec lui. C'est un être précieux.
Qu'est-ce qu'il ressent de voir que dans ce recueil de nouvelles de sa maman, c'est un de ses dessins qui est en première de couve.
Il était assez fier. Il était assez fier quand les livres sont arrivés. Il était assez fier. Et puis, là, c'est pareil. C'est un partage. C'est comme avec Laurence Bordaberry, Le Messager du Soleil. C'était un partage. C'est une aventure, en fait, d'écrire un livre. Donc, il y a toujours... J'aime bien illustrer mes textes aussi. Donc, parce que j'aime bien partager cette aventure avec quelqu'un d'autre qui a aussi cette sensibilité. Mon fils est quelqu'un d'assez sensible aussi. Donc, voilà. Et donc, il était assez content. C'est vrai, il est assez content de voir qu'il est en première de couverture, on va dire.
Voilà. Ben c'est le cas, il est en première de couverture. Donc, Bérangère Lannemarency, L'envol du navire aux éditions Nouvelle Pléiade. La semaine passée, on vous recevait également pour Le Messager du Soleil, donc aux éditions Maya, avec des illustrations de Bérangère Lannemarency. Cette semaine,
Laurence Bordaberry. Les illustrations de Laurence Bordaberry.
Pardon. Ah, non, mais,
il faut laisser.
Vous la rentrez aussi, celle-ci, Gilles.
C'est fait.
Bon. Avec Laurence. Bon,
que je salue.
Voilà, que vous saluez, que l'on salue également votre collègue donc, qui est professeur, qui est enseignante sur Tarbes. Voilà, et puis écoutez, vous penserez à nous quand vous allez ressortir...
Le cœur dans les étoiles, oui.
Le cœur dans les étoiles, vous nous recontactez pour que... Ça sera sur 2025 ?
Oui, je pense que c'est 2025, oui, bon. Oui, tout à fait. Là.
Ben, écoutez, on se retrouvera sur 2025, oui. On sera toujours là, nous, Gilles.
Bien sûr, oui, on se retrouvera même avant 2025.
Même avant 2025, la semaine prochaine voilà. Déjà, vous voyez, donc ça va vite arriver, donc c'est pour ça. Bon, ben, bonne semaine, Bérangère Lannemarency. J'ai pas dit bonne semaine, Laurence Bordaberry, vous voyez, là, j'aurais pas fait l'inverse, parce que sinon, Gilles, le rentrait...
C'est bon, on a assez de stock, là.
Moi, je me doute, oui. Il y aura un tome 2, même.
Il faut dire qu'on est arrivé très tôt ce matin à la radio. Pour préparer les émissions.
Pour préparer les émissions, c'est exact. Bon, voilà. À bientôt, bonne semaine.
Merci à vous, Diego
Arabal. Au revoir.
Bonne semaine.